Le journal présenté par Thomas Larabi.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron face aux militaires en cette veille de fête nationale. Le président de la République s'adresse à ses armées avec qui les relations n'ont pas toujours été apaisées. Nous reviendrons sur ces liens parfois conflictuels depuis son élection en 2017. Ils réclament leur régularisation. 21 gilets noirs des travailleurs sans papier ont été interpellés hier alors qu'ils occupaient le Panthéon. Ils ont été placés en centre de rétention administrative en vue de l'examen de leur situation. Nous irons dans la manifestation de soutien qui a eu lieu cet après-midi devant le commissariat du 5e arrondissement de Paris. Enfin, l'Opéra Bastille fête ses 30 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. L'Opéra, 30 ans que cet édifice tente de démocratiser la musique classique et la danse auprès de publics non avertis. Une chimère selon certains experts. Nous y reviendrons à la fin de cette édition. C'est la coutume en cette veille de fête nationale. Emmanuel Macron doit s'adresser dans quelques instants aux militaires depuis le siège du ministère des Armées, l'hôtel de Brienne. Une relation entre le chef des armées et ses troupes qui était partie du mauvais pied. Souvenez-vous-en, en 2017, la démission du général de Villiers dénonçant les coupes budgétaires et clairement dans le collimateur de l'Élysée. Mais depuis, les relations se sont franchement apaisées. Pour le spécialiste des questions militaires et stratégiques Gérard Merchet, c'est avant tout une histoire de gros sous. Écoutez.
Sous François Hollande, à la suite des attentats de 2015, il a été pris une décision essentielle qui était de remonter l'effort d'investissement dans le domaine militaire. Le budget de la défense est reparti à la hausse. Et effectivement, Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu président de la République, a confirmé ce changement de cap d'une génération. Ça faisait 20 ans que ça diminuait. Et donc, non seulement il confirme la réaugmentation du budget de la défense, mais il va l'amplifier. Et effectivement, jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Donc, les militaires, globalement, et les industriels de l'armement également, sont plutôt satisfaits de cette situation. Alors qu'il suffit de se promener dans le pays pour voir que tous les services publics ne bénéficient pas forcément d'une augmentation du budget, de leur budget. Les armées, aujourd'hui, sont dans une situation privilégiée par rapport à l'hôpital public, au transport en commun, bref. Donc, les militaires le savent. Et donc, ils se rendent bien compte qu'ils sont, d'une certaine manière, plutôt dans une bonne posture après des années où chaque année on annonçait des fermetures de régiments, des dissolutions, de ceci, de cela. Donc oui, le climat est bien meilleur.
Gérard Merchet au micro d'Olivia Ferrandi, et qui dit 14 juillet dit feu d'artifice. Beaucoup sont annulés demain pour la fête nationale en cause de fortes rafales de vent, mais surtout la sécheresse qui fait craindre des départs d'incendie. Par ailleurs, 55 départements français sont désormais concernés par des restrictions d'eau sur toute la façade ouest, mais aussi en Creuse et dans le Cher. On les appelle les gilets noirs, ces centaines de travailleurs sans papier qui ont brièvement occupé le Panthéon hier à Paris pour réclamer leur régularisation et une entrevue avec le Premier ministre Édouard Philippe. Violemment évacués par la police, 21 personnes ont été interpellées, visées pour infraction à la législation des étrangers. Ils vont être placés en centre de rétention administrative en vue de l'examen de leur situation. Aujourd'hui, une cinquantaine de personnes ont manifesté devant le commissariat du 5e arrondissement pour demander leur libération. Oussam, membre du collectif La Chapelle Debout, y était. Et malgré ses arrestations, il veut continuer les actions coup de poing comme celle du Panthéon.
Pour nous, la situation des migrants, c'est une situation qui traduit le racisme d'État en France. Très clairement, le dispositif policier auquel on a eu droit et la violence qu'on a eue, c'était une violence policière contre des gens qui se mobilisent, c'est-à-dire pour ce qu'ils font. Mais il y avait un excédent de violence qui ciblait des gens pour ce qu'ils sont. Pour nous, c'était très clair. Il y a toujours une nouvelle loi qui est encore plus raciste que la suivante, encore plus restrictive pour l'asile, encore plus répressive pour les sans-papiers. Et plutôt que pleurer cette nouvelle loi, eh ben nous, ce qu'on veut maintenant, c'est gagner quelque chose pour tout le monde. C'est ce qui a justifié le fait d'aller avec des gens des gilets jaunes, de manifester avec les victimes de violences policières, de participer aux luttes sociales et politiques en général.
Un membre du collectif La Chapelle Debout, au micro de Simon Cardona. Au Royaume-Uni, après la publication des câbles diplomatiques confidentiels par la presse dimanche dernier, la police met en garde les médias. Dans ses messages confidentiels, l'ambassadeur britannique à Washington qualifiait l'administration Trump de dysfonctionnelle et le président américain d'inepte, incompétent et instable, entre autres. Le président américain lui avait répondu en le traitant de type stupide avec lequel il ne voulait plus avoir de contact. Et mercredi, Sir Kim Darroch avait finalement annoncé sa démission. Hier, la police britannique a annoncé avoir ouvert une enquête sur ses fuites. Il a averti les médias que des publications de ce genre de documents pourraient constituer des affaires pénales, une atteinte à la liberté de la presse pour beaucoup, Haute-Sophie.
C'est le responsable de l'antiterrorisme à Scotland Yard qui mène l'enquête sur ces fuites de câbles diplomatiques et c'est lui qui, hier, a adressé aux médias un avertissement ressemblant fort à une menace. Neil Basu conseillait à tous les rédacteurs en chef et éditeurs de médias sociaux et traditionnels de ne pas publier des documents gouvernementaux confidentiels qui pourraient déjà être en leur possession ou qui pourraient leur être offerts et de les remettre à la police sous peine de s'exposer à des poursuites pénales. Des déclarations qui ont soulevé un tollé au Royaume-Uni, beaucoup dénonçant une attaque à la liberté de la presse, à commencer par les deux candidats à la direction du Parti conservateur et donc au poste de Premier ministre, Jeremy Hunt et Boris Johnson.
Il est très important dans une société libre de défendre le droit de la presse de publier les informations qu'elle juge être dans l'intérêt général et les fuites qu'elle obtient.
Celui qui a fait fuiter doit être débusqué et poursuivi. Mais on ne peut pas normalement concevoir que des journaux ou quelque autre organisation médiatique qui publie ces informations risque des poursuites.
La police britannique a dû rectifier le tir cet après-midi. Dans un nouveau communiqué, elle précise qu'elle n'a pas l'intention de chercher à empêcher les médias de publier des informations d'intérêt général dans une démocratie libérale. Selon certaines sources, de nouvelles révélations issues de communications diplomatiques doivent être publiées demain par la presse dominicale.
Les explications d'Aude Soufi. Une amende record. L'autorité de la concurrence américaine s'apprête à sanctionner Facebook. Le montant de la peine, 5 milliards de dollars. Le réseau social est poursuivi depuis mars 2018 pour utilisation abusive des données des utilisateurs. Les précisions de Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité.
On est bien dans une opération de sanction qui intervient après la découverte en mars 2018 de l'utilisation abusive par la société Cambridge Analytica, donc qui est une entreprise qui a exploité les profils alors d'environ 50 millions d'utilisateurs de manière à vendre des profils qui correspondraient aux usages et à la position politique, au positionnement idéologique des utilisateurs. Et effectivement, c'était considéré comme une exploitation abusive. Et donc, c'est la raison pour laquelle la FTC avait été saisie.
Depuis, Facebook a changé quelque chose sur la protection des données ?
Facebook s'est engagé à être plus regardant et à limiter la donnée, la durée d'exploitation des données qui vont leur être confiées. Mais là encore, déclaration d'intention, c'est les mois à venir et surtout peut-être des révélations futures qui pointeront des dysfonctionnements. On est beaucoup dans le réactif par rapport à des comportements abusifs plutôt que dans la poursuite des pratiques ou des mauvaises pratiques de ses clients.
Nicolas Arpagian au micro d'Olivia Ferrandi. Et si cette amende record, 5 milliards de dollars, peut donner le vertige, de nombreux élus américains craignent qu'elle ne soit pas dissuasive. En effet, Facebook, c'est plus de 55 milliards de revenus en 2018. D'ailleurs, les actionnaires ont été rassurés par le montant de cette amende puisque le titre Facebook a fini en hausse de 1,8% hier soir, à son plus haut depuis un an. Justice avant tout, c'est le mot d'ordre adopté cet après-midi par des milliers de Soudanais sortis à nouveau dans plusieurs villes du pays. La journée coïncide avec la fin du deuil pour les familles des 136 victimes de la répression du 3 juin dernier, lorsque des milices et des militaires ont évacué par la force un rassemblement pour l'instauration d'un régime civil dans le pays. Les représentants de la contestation et le conseil militaire ont certes conclu depuis un accord de principe qui reste à finaliser, mais pour les Soudanais, il faut d'abord juger les responsables de ce massacre. Soleiman Ali Baldo est membre de l'organisation Enough Project. L'ONG basée à Washington lutte pour la prévention des génocides et crimes de guerre en Afrique de l'Est.
Ils veulent justice pour les victimes. Le 3 juin, les forces de sécurité soudanaises ont lancé un assaut militaires sur des civils non armés. Ils les ont tués. Certains ont été disparus, jetés dans le Nil. D'autres dans des fosses communes. Des femmes ont été violées. Et ce que le Soudanais demande, c'est justice pour ces victimes et une investigation indépendante, crédible, qui identifie ceux qui ont donné l'ordre pour cet assaut et les traduire en justice. Il y a des raisons crédibles pour croire que c'est le conseil militaire elle-même qui a donné l'ordre de cet assaut. Pourquoi ? Parce que le porte-parole officiel, le général Kabashi de ce conseil, l'a dit dans une conférence de presse. Et donc, il y a des fortes craintes pour que les membres du conseil militaire vont tout faire pour essayer de neutraliser cette poussée pour une enquête crédible et indépendante.
L'Opéra Bastille fête ses 30 ans aujourd'hui. Le bâtiment très moderne avait été choisi par François Mitterrand et délocalisé dans l'est de la capitale pour démocratiser la musique et la danse classique. 30 ans plus tard, le public s'est un peu rajeuni. L'âge moyen est aujourd'hui de 46 ans, mais l'opéra attire toujours en majorité un public riche et vieillissant. En 30 ans, l'âge médian du public de la musique classique est même passé de 36 à 61 ans. Un relatif échec pour ce pari qu'était l'Opéra Bastille. C'est en tout cas l'avis de Fabrice Raffin, sociologue de la culture et maître de conférences à l'université de Picardie.
Je pense qu'on touche là d'emblée à un premier fantasme du politique qui pense que de réduire les distances spatiales réduit les distances sociales. Or, toutes les études sociologiques montrent que on pourra mettre un opéra en bas de chaque immeuble. Globalement, à part ceux qui en sont adeptes, éviteront cet endroit. Alors pour des raisons plus symboliques qu'esthétiques en fait, parce que la musique classique est étiquetée comme une musique de milieu social supérieur, on va dire. Contrairement à ce que disait Malraux, la neutralité opératoire de la culture, ça n'existe pas. Dans la culture se jouent toujours des choses qui relèvent de la distinction sociale, de l'identité, de la domination. Et l'opéra, comme les chiffres le montrent, c'est un public dont les personnes sont âgées et de classe CSP plus. Alors c'est aussi une architecture, c'est-à-dire que la façade est tellement imposante que se joue aussi à travers le bâtiment cette domination sociale.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement c'est un vain mot ou c'est un leurre de vouloir, comme on dit, démocratiser l'opéra alors.
C'est toujours positif d'ouvrir les gens à la curiosité, je trouve. Mais c'est une idée fausse de penser qu'il y ait en France des personnes qui n'ont pas de pratique culturelle. Qu'on les néglige, qu'on les stigmatise comme n'étant pas des pratiques culturelles, c'est un autre problème. Mais c'est un peu la base du problème, en fait. Et la question qui se pose, c'est pourquoi certains milieux sociaux devraient aimer la musique classique et pas l'inverse. Moi, je pense qu'il faudrait faire de la médiation culturelle pour les publics des musiques classiques ou de l'opéra, leur donner la capacité d'apprécier du rap ou du métal, vous voyez ?
Fabrice Raffin au micro de Cécile de Kervas-Doué. Après la danse et la musique, place au théâtre. Aujourd'hui, c'est le 10e jour du Festival d'Avignon. 10 jours que la Cité des Papes vibre au rythme des pièces de théâtre sur les planches ou les pavés. Et aujourd'hui, Arnaud Laporte s'intéresse à l'œuvre de Pascal Rambert, un habitué du festival. Il présente cette saison Architecture, une pièce qui ne vous a pas plu. Arnaud Laporte, vous parlez même de défaite de la pensée. Vous dites que Pascal Rambert rate là l'occasion de porter le politique dans la cour d'honneur du Palais des Papes.
En 2005, Pascal Rambert présentait After Before au Festival d'Avignon. Lors de la première, une spectatrice s'était levée au milieu du spectacle et avait crié « Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» After Before, c'était un spectacle chorégraphique dans lequel s'inséraient des interviews en vidéo de personnalités très diverses qui parlaient de leur rapport au monde contemporain. J'étais de ceux à l'époque qui avaient défendu ce spectacle exigeant, radical, qui travaillait le motif de la répétition jusqu'à l'exaspération. L'exaspération avait été grande, donc, mais le spectacle nous donnait matière à penser. 14 ans plus tard, Pascal Rambert est dans la cour d'honneur avec Architecture et interroge à nouveau l'état du monde à travers les membres d'une famille d'artistes qui traversent les traumatismes du XXe siècle. Mais cette fois, pas de scandale. La forme, sans doute, n'y est pas pour rien qui voit Pascal Rambert écrire de très longues tirades dans une forme qui cherche maladroitement à allier poésie et philosophie et qui donne naissance à une grandiloquence bien pensante devant laquelle on reste un peu interdit. Si Rambert a depuis quelques années déjà emprunté ce chemin, il apparaît ici dans ce grand format de la cour d'honneur singulièrement court. Il ne suffit pas d'empiler les références, Tchekhov, Thomas Bernhard, Duras, les Grecs anciens ou Shakespeare, pour donner de l'épaisseur à un texte qui enfile les clichés comme des perles. On ne peut que se désoler que Pascal Rambert, qui reste l'un de nos grands auteurs, se fourvoie dans les grandes largeurs avec ce spectacle qui ne fait que conforter le public dans ses craintes néo-bourgeoises et ses indignations calibrées. Cette pièce qui se voudrait politique en est un exact opposé, un prêt-à-penser confortable qui fait que chacune et chacun ressort de la cour d'honneur sans s'être posé la moindre question. Défaite de la pensée.
Un avis très tranché d'Arnaud Laporte en ce 10e jour du Festival d'Avignon. Et on se permet, en cas d'exploit exceptionnel tout de même, de ne pas respecter cette règle du No Sport sur France Culture pour annoncer qu'un Français a enfilé le maillot jaune aujourd'hui dans cette étape, la 8e étape du Tour de France. Cocorico, il s'agit de Julian Alaphilippe. Du côté du ciel, un petit mot de la météo. La soirée sera belle et son ciel dégagé dans l'immense majorité du pays. On note seulement quelques gouttes de pluie dans le Bas-Rhin. Demain matin, grand soleil pour tout le monde, à part quelques gouttes toujours dans le Bas-Rhin, un tout petit peu dans le Doubs et les Pyrénées orientales également. Côté température, comptez 19 à Cherbourg et Strasbourg, 20 à Lille, 25 à Orléans et à Brest, 28 à Toulouse, 29 à Ajaccio, comptez également 28 à Grenoble, 30 à Marseille, 24 à Quimper, 19 à Cherbourg, 21 à Lille et 20 à Strasbourg. C'est la fin de ce journal. Il vous a été préparé par Caroline Beneteau, à la technique Nasser Moussaoui.